13h, à votre santé.
À votre santé.
Philippe Robichon sur Beurre FM.
AVS à votre santé, bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Je suis tellement content de retrouver Nadia El Bouga. Bonjour Nadia.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Voilà, vous avez bravé la neige pour être là avec nous.
Nous avons bravé la neige, oui, effectivement, puisque nous sommes deux warriors aujourd'hui à avoir traversé la fraîcheur parisienne, pour ne pas dire la glace.
C'est pire que la fraîcheur. Hein. Bien, notre invité s'appelle Flore Chéry, bienvenue.
Merci Philippe.
Vous êtes journaliste, animatrice d'événements, de littérature érotique, vous êtes actrice de web-série sexo et touche à tout, ça c'est vous, et vous publiez le guide de survie sexuelle de l'étudiant aux éditions Tabou, ça ne s'invente pas. Bien, vous avez choisi de parler de sexualité avec humour, pourquoi ?
Parce que quand on prend la parole sur le sujet de la sexualité, on peut le prendre de plein de façons différentes. Majoritairement, aujourd'hui, dans les médias, le discours, il est souvent très médicalisé quand on parle de sexualité. On est tout le temps dans la rubrique sexo. Et on parle beaucoup de maladies sexuelles, de problèmes sexuels. Moi, je voulais avant tout parler de plaisir et tout ce qui se rapproche à la sexualité, aussi les relations hommes-femmes, l'épanouissement personnel, la confiance en soi, le rapport à son corps. Et ça, c'est des sujets qui sont assez difficiles en fait à traiter parce qu'ils sont très anxiogènes parfois, ils touchent vraiment à l'intime. Et en parler avec humour permet quelque chose de simple, c'est-à-dire de prendre énormément de recul sur des sujets qui peuvent être assez anxiogènes. C'est un parti pris, ça ne veut pas dire que le sexe est toujours youpi, tralala, c'est la fête du slip tous les soirs, c'est pas ça. Ça peut être ludique, ça peut être
la
marrant.
La fête
du slip.
Ah oui, bon, en ce moment,
la culotte.
Je vous déconseille en ce moment, vous allez attraper froid aux fesses, je dis tout de suite.
Avec des grosses chaussettes, la fête du slip en chaussettes. Mais en tout cas, oui, c'est un parti pris qui permet d'avoir un discours plus facile, plus bienveillant avec les gens. Parce que dès qu'on en parle de façon parfois...
C'est pas les gens, parce que là vous vous adressez quand même, et c'est pour ça qu'on vous a invité, c'est une classe d'âge à laquelle on ne sait pas comment s'adresser, puisque ce sont les... Alors, c'est pas les jeunes ados, ce sont les jeunes adultes. C'est-à-dire ceux qui quittent le lycée pour aller à la faculté.
Ouais.
Donc cette classe d'âge-là, moi ce que j'ai compris en lisant votre guide, c'est que finalement, on avait quand même du mal, en dépit dont on s'imagine effectivement, c'est la fac, tout ça, on a du mal à leur parler de sexualité.
Oui. Parce qu'on a, en fait, il y a plusieurs intervenants différents qui leur parlent. Alors, il y a un travail qui est fait, on a regardé plusieurs interlocuteurs différents, et je pense que ceux actuellement qui font le meilleur travail, c'est les associations, qui ont vraiment compris qu'il fallait axer leur discours de façon ludique, avec des messages positifs sur la sexualité, et pas toujours leur parler de prévention, de capote, d'IST, de grossesse non désirée, parce que c'est massivement tout le sujet médical. Aujourd'hui, si un jeune va parler à un médecin ou à un corps médical, en tout cas de sexualité, il va avoir un discours très médicalisé, pas du tout sexy, et qu'il n'a pas forcément envie d'entendre tout de suite. Il a envie qu'on réponde à des questions comme comment on fait l'amour. Et la deuxième question, c'est est-ce que je suis normale? Est-ce que mon corps est normal? Est-ce que je suis normale? En fait, il n'a pas du tout envie qu'on lui parle
de chlamydia.
C'est l'âge
des questionnements,
quoi. C'est l'âge de cette question. Et tant qu'on n'a pas répondu à cette question, le jeune, il ne va pas entendre toutes les réponses sur les IST, les grossesses. Il veut juste se dire, mais comment on fait pour faire l'amour et est-ce que je suis normale? Il veut d'abord répondre à ces deux questions-là. Il faut d'abord le rassurer là-dessus. Et il y a plein d'autres problématiques aussi auxquelles le corps médical ne répond pas aujourd'hui, qui sont, et qu'on connaît quand on commence à rentrer dans la vie étudiante, c'est-à-dire qu'on commence à voir son premier vrai petit copain ou sa vraie petite copine. Comment on gère cet autre qui rentre dans notre intimité?
Il n'y a pas que ça aussi. Hein. Il y a aussi l'âge du premier appartement, de la première voiture. C'est quand même, entre guillemets, je veux dire, pour les parents qui nous écoutent, c'est quand même le début de la liberté, de toutes les libertés.
Sur certains, parce qu'en fait, il y a 50, par exemple, même en région parisienne, il y a plus de 60% des étudiants qui habitent encore chez leurs parents. Comment on fait pour gérer sa sexualité qui doit être là et qui doit s'émanciper dans un contexte où on habite chez papa-maman, où on doit dormir chez papa-maman, où papa-maman a toujours un regard sur notre vie sexuelle parce qu'il veut toujours nous contrôler? Comment on fait pour avoir un discours sain avec ses parents? Ça, c'est typiquement ce que je mets dans le livre, des petits trucs. Alors, ça marche pas avec tous les parents, chacun a sa famille.
Ça marche pas avec tous les parents, non. Les exemples qu'il y a dans vos livres, ça marche pas avec tous les parents, je vous rassure tout de suite.
Surtout quand ils sont bien illustrés.
Là, je peux vous dire que... Bon, Mais finalement, les parents, ils sont là pour vous élever, pour vous donner une colonne vertébrale, pour vous donner des valeurs. Mais est-ce que finalement, c'est avec les parents qu'on va parler de sexualité ? Est-ce que les parents ne sont pas complètement disqualifiés ?
Alors, pour répondre à cette question, qui est une très très bonne question, la vraie réponse est oui et non, et en fait, ça dépend des parents. Il y a des parents qui ne sont même pas au courant des dangers médicaux ou des IST, parce que bon, faut quand même aussi se tenir au courant. Il y a des maladies qui sont en recrudescence, d'autres qui sont peut-être moins, qui sont un peu enfin, moins graves ou qui se protègent mieux, en tout cas aujourd'hui. Et ils sont pas toujours au fait de comment bien protéger l'enfant ou quels sont les bons conseils à donner. Donc, moi, le premier conseil, c'est pas forcément de dire aux parents, mais c'est à vous de donner toutes les réponses à l'enfant, mais c'est le rôle, c'est de bien l'orienter. C'est-à-dire, si vous n'avez pas les réponses ou que vous ne voulez pas avoir une discussion sur le sujet de la sexualité, pas de souci. Il y a le planning familial. Il y a peut-être telle et telle personne dans votre entourage qui peut faire office de conseiller là-dessus, qui peut aider le jeune. Mais surtout, pas laisser, ou les livres, hein, ça peut être ça aussi, mais pas laisser le jeune comme ça dans son marécage de questionnement et de l'aider, de l'aiguiller et de lui dire, ok, tes questions, elles sont normales, elles sont ok, tu as le droit de les poser. Moi, je vais pas te répondre pour X raisons qui sont celles des parents, mais je vais t'orienter, c'est mon rôle.
Oui, ce que dit Flore, c'est fondamental, c'est-à-dire que, et c'est ce que je dis très souvent, quand un parent, les parents ont droit d'être mal à l'aise avec les questions qui touchent à la sexualité, qui touchent au corps, qui touchent à la relation. Maintenant, il faut qu'ils s'autorisent à le dire. Je pense que c'est, il y aura beaucoup plus d'effets positifs de dire à son enfant, qu'il soit enfant, ado ou jeune adulte, de lui dire, écoute, moi, dans ma famille, on parlait pas de sexualité, c'était quelque chose qui était tabou, je suis pas à l'aise avec le sujet, honnêtement, je préfère pas.
D'ailleurs, à la télévision, dès qu'il y avait un baiser avec la zapette, on zappait immédiatement.
Voilà, on est devenus des acrobates professionnels avec la télécommande. Donc, je suis pas à l'aise avec le sujet, donc, je préfère que tu t'adresses à ton papa ou à ta maman ou à ta tata ou ton tonton qui sont plus à l'aise. Ou alors, tout simplement dire, écoute, je suis mal à l'aise avec le sujet, mais je vais me documenter ou me renseigner ou me poser pour réfléchir à comment te répondre le plus justement possible. Mais il faut le dire, parce qu'il n'y a pas pire pour un enfant, quel que soit l'âge qu'il a, de décrypter, enfin de faire une lecture corporelle en décodant bien que le parent est supra mal à l'aise, et à côté avoir un discours moralisateur qui est complètement en décalage avec la réalité de cet étudiant ou de ce lycéen ou ce collégien. Donc oui, il vaut mieux jouer la carte de la sincérité avec
Donc, la sincérité, c'est de dire non, je ne suis pas à l'aise avec le sujet.
Ouais, je suis pas à l'aise.
Ça, oui, tout à fait.
Vaut mieux dire ça que de dire chouma, haram, je parle pas de ça, astaghfirullah. Non, vous dites que vous n'êtes pas à l'aise et vous pouvez très bien le justifier le pourquoi du comment vous n'êtes pas à l'aise, hein, que vous faites partie d'une génération où on parlait pas de sexualité, où tout était tabou, vous avez découvert vous-même les choses au fur et à mesure de votre cheminement. Le jeune, il est tout à fait capable d'entendre ça et ils sont même beaucoup plus perspicaces que vous ne le croyez.
Mais là, quand vous dites le jeune, il y a plusieurs catégories de jeunes. On a les lycéens, mais là, on s'adresse à des gens qui sont sortis du lycée.
Oui, aux étudiants.
Qui vont à la fac, qui ont commencé peut-être à travailler pour certains. Voilà, il y a quand même un sentiment de liberté. Et quand je disais, c'est peut-être l'âge aussi de la première chambre d'étudiants. C'est quand même beaucoup de choses. Et il y a les parents qui s'angoissent parce que subitement toute cette liberté sur leur enfant, ça fait beaucoup de choses, donc ils se transforment un peu en gendarme, en flic, en ce que vous voulez.
Alors là aussi, c'est tout dépend de comment ces parents-là appréhendent eux-mêmes la sexualité. C'est-à-dire que si ils étaient dans un mécanisme de contrôle déjà en amont, effectivement, ils auront du mal à changer leur façon de fonctionner et ils seront toujours les flics de leurs enfants même après, et j'ai envie de dire même lorsqu'ils seront adultes, ils auront ce mécanisme de fonctionnement. En revanche, si le parent a évolué ou ou avait déjà une conception de la sexualité qui est plus dans ce que nous propose Flore, dans quelque chose de plus ludique, de plus sympa, de d'épanouissant, quelque chose qui est pas l'enfer. Eh bien là, l'échange avec l'étudiant ou l'étudiante sera un petit peu plus serein. Alors je dis pas que le parent sera moins inquiet, effectivement, parce que on vit dans une société où
angoissante.
Oui, alors en réalité, les sociétés ont toujours été angoissantes. Hein. C'est juste que maintenant, comme on a des moyens de communication qui nous permettent d'avoir un accès beaucoup plus rapide aux différents éléments anxiogènes, bah du coup, ça rajoute chez les parents cette crainte que l'enfant, bah, comme vous le disiez, Flore, de cette grossesse inopinée non désirée, de cette IST chopée lors d'une soirée. Ou après, il y a un dialogue à instaurer avec son enfant, parce que je dis son enfant, alors ça paraît c'est très infantile, hein, mais le parent effectivement peut être dans cette posture-là, de même si c'est un étudiant de 18, 19 ans,
vous restez le bébé,
vous restez
hein.
toujours l'enfant de maman ou de papa. Après, votre posture va faire aussi la différence. Je veux dire, à un moment donné, plus on donne d'éléments à ce jeune pour qu'il s'autonomise, pour qu'il comprenne et se prenne en charge, et plus vous serez surpris de voir qu'effectivement, ça va pas être les beuveries tous les soirs ou les sauteries ou je ne sais quoi. C'est aussi la façon dont vous allez communiquer, interagir avec ce jeune. Ah ben, il faut faire grandement confiance.
Parfois même, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que faire confiance permet juste un truc simple, c'est-à-dire créer un climat serein pour que l'enfant, le jour où il y a un vrai gros problème, il n'ait pas peur de le dire, parce que il va, enfin, c'est bien de le savoir dans ces moments-là. Juste être dans un climat malsain de contrôle tout le temps, vous risquez juste, en tant que parent, de vous couper de votre enfant le jour où il y a un vrai problème.
Exactement.
Et qu'il aura besoin de venir vous en parler.
Tout à fait.
C'est vrai que...
Ça, c'est important de le dire. Hein.
Ah oui, ouais. Quand on a établi la confiance déjà très très jeune, hein, et ça je le dis assez souvent, hein, très très jeune, c'est-à-dire dès la naissance de votre enfant, il faut établir vraiment cette relation de confiance pour que votre enfant, quel que soit l'âge qu'il ait, d'estime de lui-même et d'estime dans la relation qu'il a établie avec vous pour venir le jour où il y a un couac, vous en parler, que ce soit un couac sexuel, relationnel ou autre, mais qu'il puisse se dire papa et maman vont pas me saquer ou je vais être banni de la famille ou quoi qu'est-ce, mais il ou elle va se poser et réfléchir avec moi à une solution.
Comment est-ce que le jeune détermine celui qui peut donner les moins bons conseils et celui qui est vraiment son ami qui peut lui donner les bons conseils pour parler de sexualité?
Mais c'est assez dur. D'ailleurs, je mets même dans le livre que les parents peuvent donner de mauvais conseils. C'est écrit noir sur blanc dans le livre, parce que les parents, ils ont aussi un rôle évidemment de contrôle, et ce rôle de contrôle peut parfois être contradictoire avec celui de l'épanouissement personnel de l'enfant. Donc je dis que tous les conseils sont pas bons à prendre. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est juste de pas se dire ça c'est un bon, c'est pas un bon, c'est d'en avoir plein, vraiment plein. C'est les parents, l'entourage, les amis, internet, les livres, d'aller piocher partout et de se faire sa propre opinion, parce que en mon avis, dans chaque discours il y a du bon et il y a du mauvais. Et c'est en multipliant les sources de connaissances qu'on arrive à se dire tiens, ça me parle, ça m'intéresse, ça fait résonance avec ce que je ressens aussi de la sexualité, ça me plaît bien. Et dans chaque discours, et les parents n'ont pas un discours évidemment irréprochable, tout comme les amis encore moins parfois.
Non, mais les parents n'ont pas un discours irréprochable. Simplement, les parents peuvent simplement vous dire parfois des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais ça ne veut pas dire que le discours est négatif. C'est simplement qu'ils ne vont pas dans votre sens.
Mais si on entend le même discours sur Internet ou dans des livres ou des bons sites spécialisés, et il existe de très 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 bons sites Internet pour conseiller les enfants ou les jeunes,
c'est ce qu'on verra tout à l'heure, parce qu'effectivement...
Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont très bien faites. Si vous avez le même discours que vos parents sur Internet, vous dites, peut-être qu'ils ont raison au bout d'un moment. Peut-être que ce n'était pas que du n'importe quoi, et peut-être qu'ils avaient bien raison de m'avertir. Mais ma seule recommandation, et c'est ce qu'on dit dans le livre, c'est que de toute façon, on n'apporte pas toutes les solutions dans le livre, parce qu'il est petit, c'est un petit guide.
C'est un guide pratique, amusant.
Mais on a vraiment voulu orienter le jeune derrière pour dire, si tu as des vraies questions sur tout le détail des IST, va ici, c'est super bien fait. Tu as tout le détail des risques que tu prends à chaque fois que tu fais ça, de comment bien te protéger, de choisir ta contraception. On va pas lui faire tout un listing, mais ça existe, c'est vachement bien fait. Il y a plein de sites vraiment bien qui se sont penchés sur la question de l'éducation sexuelle de l'étudiant. Et nous, on leur dit juste, va te renseigner, mais partout, et multiplie. Ce livre n'est pas juste une bible de référence, il y en a plein. Et plus tu multiplies, c'est comme dans tout, c'est comme la politique. Quand tu fais tes choix politiques, tu vas te renseigner sur plein de choses différentes, tu vas t'intéresser à plein de choses, et là, tu fais ta propre opinion. C'est pareil en matière de sexualité. En particulier, il y a plein de pratiques différentes, il y a plein de choses différentes à faire. Il faut savoir se connaître, connaître son corps. On est tous différents par rapport à la sexualité. On a le droit d'avoir tous une sexualité différente. Va te renseigner, va voir ce qui existe, trouve ta propre sexualité et puis vis-la. Mmh. Voilà, c'est ce qu'on conseille en tout cas dans le livre.
D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle Les Alliés et je trouve qu'il est bien fait parce
on
que
parlera
ça
parlera des alliés tout à l'heure.
Hein. Ouais, ça va justement des parents jusqu'aux associations, en passant par les médecins. Ouais, donc à mon sens, c'est effectivement un petit guide sympa qui peut dédramatiser pas mal de choses concernant la sexualité des jeunes. Après, effectivement, peu importe l'éthique qu'a chaque personne, je pense que ça peut être une bonne base pour pouvoir discuter avec son jeune. Donc, quel que soit l'éthique ou les valeurs de chacun, ça peut être intéressant parce que, en fait, ce que met Flore dans le bouquin, en fait, c'est la réalité du terrain. Donc, à un moment donné, je veux dire, on peut vivre sur Utopia Land ou je ne sais quelle contrée lointaine.
Ou sur Autruchland.
Voilà, mais ici, en tout cas, sur Terre, il y a une réalité. Il y a une réalité qui concerne la jeunesse et sans couper ou comme vous dites, Philippe, se mettre les œillères sur les yeux, c'est tout simplement foncer droit dans le mur.
Bon, Nadia, Flore Chérie, notre invitée, on feuillette ensemble le guide de survie sexuelle de l'étudiant aux éditions Tabou.
À votre santé. Reviens dans un instant sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Pas toujours simple hein, de parler de sexualité à tous les âges. Notre invitée aujourd'hui, c'est Flore Chérie, qui est journaliste, animatrice d'événements de littérature érotique et actrice de web-série sexo. Vous êtes une touche à tout et vous publiez le guide de survie sexuelle de l'étudiant que Nadia vous montre aux éditions Tabou. Évidemment, si vous nous écoutez à la radio et que vous avez un transistor, vous ne le voyez pas. Mais c'est en bas à droite sur le transistor et c'est un guide illustré par Geneviève Surius.
Guenièvre Surius.
Guenièvre, voilà. Ah, Guenièvre, ça aussi, ça c'est... Plus vous êtes jeune et plus vous avez des noms de vieilles.
Elle adorera.
Hein? Ah bah c'est très élégant, cher Philippe.
Oh, et si j'étais élégant, ça serait.
Sachez que les prénoms, les anciens prénoms reviennent à la mode. Hein. On est en première ligne, hein, donc tous les dix vieux prénoms reviennent à la mode.
Bien. Nadia, vous nous parliez tout à l'heure d'alliés pour parler de sexualité. Quels sont les alliés?
Bah en fait, c'est moi j'ai trouvé ça chouette dans le guide justement. Donc Flore nous cite les alliés, donc les différentes personnes, comme on disait, qui peuvent être des référents concernant les questions sur la sexualité. Donc Flore, elle nous cite le ou la gynéco, notamment. Alors il y a juste un petit bémol pour moi, c'est que vous citez le ou la gynéco et pas l'urologue.
Oui.
Alors que pour les garçons, je pense que c'est... alors, il y a le médecin traitant.
Le médecin, en fait, on n'est pas obligé d'aller voir tout de suite un urologue quand on est un jeune.
Enfin, Nadia, à 18 ans, vous connaissez beaucoup de gens qui sont déjà allés voir un urologue.
Non, mais sachez que le médecin traitant, c'est vrai que c'est l'interface, c'est la première interface, en fait, notamment quand c'est un médecin de famille qui connaît un peu, qui connaît un peu le fonctionnement familial et puis les différents membres de la famille. Mais parfois, ça peut être aussi un obstacle parce que comme il connaît la famille, le jeune peut se dire non, je vais pas aller lui raconter ma life. Donc du coup, ça peut être intéressant. Très peu d'hommes, même de garçons ou d'hommes, savent que l'équivalent du gynéco chez la femme, c'est l'urologue chez l'homme. Donc, ce serait intéressant, notamment un urologue sexologue.
La problématique de, par exemple, l'urologue comme le gynécologue, et la problématique du gynécologue, d'ailleurs, j'encourage pas forcément les jeunes filles à aller le voir directement, parce qu'on a un peu ce truc-là, c'est que ça coûte très cher.
À cet âge-là, il y a une réalité qui est d'abord économique.
Et ça, c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, ils n'ont pas d'argent. Il y en a plein qui refusent d'aller voir les médecins, ou en particulier les gynécos et les urologues, qui coûtent vraiment très très cher, qu'on va voir vraiment si on a un problème, parce que c'est un budget. parce que tout le monde peut pas se l'offrir forcément. Donc moi ce que je dis c'est que oui, le gynéco il existe, il fait ci, il fait ça. En fait, mais de la gynécologie courante, le médecin traitant le fait aussi. Alors peut-être pas choisir forcément le médecin traitant de la famille, mais aller en trouver un autre qui a des prix abordables. Et pour de la gynécologie courante, s'il y a pas de sujet, de souci, pour une pilule par exemple, vous y allez quoi. Vous avez pas besoin d'aller chez un gynéco.
Tout à fait. Et donc du coup après, bah, dans les alliés, Flore elle cite le pharmacien. Et c'est vrai que il y a peu de jeunes qui savent que bah, le pharmacien ou la pharmacienne peut être un référent, notamment pour les jeunes filles ou pour les femmes tout simplement. La pilule du lendemain, c'est certaines filles n'ont pas le réflexe d'aller au planning familial et du coup la pharmacienne, elle peut être ou le pharmacien peut être une interface pour pouvoir renseigner bah, s'il y a eu un rapport sexuel non protégé ou alors un oubli de contraception.
Ça, et surtout, j'en parle surtout sur la pharmacienne ou le pharmacien, parce qu'il y a eu pas mal de sujets, et notamment, c'est peut-être moins le cas aujourd'hui, mais c'est vrai que peut-être il y a...
Ça a été polémique au moment où ils ont eu le droit de prescrire la pilule
et de rappeler, je le rappelle dans le livre, que c'est un droit, c'est que vous n'avez pas à subir le jugement du pharmacien sur la pilule du lendemain. Il n'y a aucun risque sur une infertilité à la suite de la prise de cette pilule, donc vous la prenez si vous n'êtes pas sûr et si vous avez pris un risque dans tous les cas, et vous n'allez pas être stérile pour autant, et vaut mieux la prendre que de toute façon ne pas la prendre. Ça, c'est clair et net. C'est pas un moyen de contraception à prescrire sur le long terme. Maintenant, s'il y a eu un problème, vous la prenez sans autre discussion, en tout cas, et surtout pas avec votre pharmacien qui vous dit oh, c'est pas bien, on s'en moque, on la veut.
Tout à fait, sans oublier le test, hein, parce que là, on parle de grossesse, mais après, effectivement, il y a aussi les IST. J'atteste qu'il y a vraiment. On parle des pharmaciens, mais il ne faut pas oublier les préparateurs et préparatrices en pharmacie qui sont très souvent au comptoir, plus souvent d'ailleurs que les pharmaciens, et qui sont de très très bons conseils. J'en connais personnellement et je vous assure que le contact avec les jeunes, parfois ça a désamorcé.
D'accord, mais la discrétion dans une pharmacie quand il y a du monde derrière. C'est
oui,
juste ça, après, c'est que ça manque de discrétion. Là, vous vous affichez grave.
Après, ils ont voilà ceux qui ont le tact, qui ont l'habitude d'être au contact des jeunes. Ça dépend aussi des secteurs où ils se situent. Ils savent faire. Je vous assure qu'ils savent faire. Ils peuvent se mettre de côté, ils peuvent prendre le jeune ou la jeune à part. Ils savent faire, très sincèrement. Alors après, dans les alliés, vous parlez de là où le coloc. Alors dites-nous en plus.
Non, parce qu'en fait, bon, sur le coloc, c'est pas forcément quelqu'un qui va nous aider dans notre sexualité, mais c'est quelqu'un avec lequel on peut avoir des problèmes de gestion de la pudeur, parce que c'est quelqu'un avec qui on doit partager notre environnement, le début de notre intimité, le début de notre vie un peu de couple, parce que parfois on va ramener le petit copain et la petite copine. Et donc c'est vrai que d'arriver à communiquer seulement avec le coloc, bien choisir, pas choisir n'importe qui, ça fait aussi partie de la gestion de l'intimité. Donc oui, je l'ai pris comme allié, puis c'est aussi quelqu'un qui est finalement tout le temps avec vous, tout le temps dans votre quotidien, qui connaît vraiment bien votre vie sans vraiment vous connaître, avec lequel vous partagez juste un loyer. Donc c'est vrai que c'était intéressant de savoir comment l'aborder, comment le choisir, comment gérer la pudeur, voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un bon allié dans l'environnement
de l'étudiant. C'est central même.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Bah on dit bien qu'on choisit nos voisins hein, quand on veut s'installer quelque part. Alors pourquoi pas choisir celui qui est beaucoup plus près, c'est-à-dire le coloc ou la coloc. Ensuite, vous parlez du copain ou de la copine.
Ça, c'est un vrai sujet et je pense que même le discours médical devrait être plus proche là-dessus, enfin en tout cas plus éduqué à parler aussi des premiers moments de la relation intime, parce que les premiers petits copains, les premières petites copines, moi j'ai eu beaucoup de témoignages d'étudiants qui m'en parlaient sur des petits copains ou des copines qui mettent la pression pour certaines pratiques sexuelles, qui vont juger énormément le corps de l'autre, t'es trop gros, t'as pas assez de muscles, t'as trop de poils, donc c'est la première fois que vous mettez vraiment à nu, c'est la première fois que vous mettez à nu non seulement votre corps mais aussi vos émotions, vos faiblesses, ce que vous êtes, et parfois l'autre, pas tout le temps, mais l'autre peut être un peu soit destructeur, soit pas respecter vos limites en se disant bah oui mais je suis ton petit copain, c'est normal si on fait l'amour plein de fois de suite, et la petite copine se dire ah oui c'est normal, c'est pas normal, je sais pas trop, j'ai pas trop envie, comment je le dis, et on n'est pas du tout éduqué à la communication à l'autre, et je trouve ça assez problématique, surtout dans ces moments-là où on est très jeune, où on construit notre ego, on construit notre confiance en soi. Donc oui, évidemment, je donne plein de conseils sur comment bien parler ou avec son petit copain, sa petite copine. Il y a des petites techniques à savoir pour la relation de couple et voilà, j'en parle sommairement, mais bon, j'en parle quand même un peu parce qu'on en parle très peu.
Ouais, tout à fait. Là, vous soulevez ce qui est fondamental d'ailleurs dans la vie d'un couple, quel que soit l'âge, hein, c'est la communication tout
bien
simplement.
Sûr.
Savoir choisir les mots et les attitudes aussi qui ne vont pas froisser ou bien inférioriser l'autre,
bien
mais plutôt
sûr.
Être dans l'échange, parce que dans un couple on peut s'aimer et ne pas être d'accord, et ça
c'est normal, et c'est même sain, et c'est même normal de pas être d'accord sur tout. Et puis il y a des petites choses très simples, par exemple je parle de ce moment où vous avez envie d'avoir une pratique sexuelle avec votre partenaire ou de parler de sexualité. Évitez de le faire quand vous êtes au lit et qu'il est 23h du soir et que vous êtes tous les deux sous l'oreiller, parce que votre partenaire va penser que c'est une injonction à là tout de suite, maintenant il va falloir faire ça. Si vous en parlez tranquillement au restaurant, vous êtes un peu tous les deux, ou là de toute façon vous n'êtes pas en train de vous pouvez rien faire là dans l'immédiat, ça permet de prendre aussi beaucoup de recul et d'avoir une discussion plus saine. Évidemment, si vous êtes sur l'oreiller et que vous avez une discussion sur la sexualité un peu anxiogène, ça va rajouter de l'angoisse que d'être...
Et du blocage au blocage.
Et du blocage au blocage, voilà. Il y a des trucs tout simples à connaître et au final, les jeunes ne sont pas forcément armés avec ça.
Ouais. Tout à fait. Ensuite, vous citez les parents.
Ben oui, évidemment.
Ils sont mis en dernière position d'ailleurs. Hein,
mais c'est pas par ordre d'importance.
Les parents, c'est toujours quand ça va très mal qu'on les sollicite de toute façon. C'est quand le mal est fait que là, on appelle les parents.
Alors j'aime bien, en plus c'est dans le graphique, c'est vraiment deux parents avec le sourire Albright.
Ils sont quand même très modernes, nos parents.
Ils ont l'air gentils,
et le petit chat dans les bras.
D'ailleurs, venez à la maison, ça semble pas à ça. Hein.
Alors comment un étudiant peut aborder la question
sexuelle? Le sujet avec les parents, donc ce que je dis dans le livre, mais c'est pas vrai pour tous les parents, mais peut-être choisir le parent qui est du même sexe que soi, parce que usuellement c'est comme ça qu'on fait, mais en vrai c'est le parent avec lequel on est peut-être un peu plus proche.
Vous
toujours choisir un moment, évidemment ça tombe sous le sens où on est un peu isolé, on va pas le faire lors du dîner en famille où il y a tout le monde, où il y a tata, où il y a mamie, mais on sait peut-être pas là-dessus. On peut évidemment passer par
si mamie est sourde, c'est mieux.
Voilà, dans ces moments là
mamie est sourde, on va en parler avec mamie.
Donc choisir évidemment son moment, peut-être passer par des biais qui sont soit un livre, soit un magazine, soit une revue, soit une copine qu'on aurait inventée. Même si le parent n'est pas dupe, il se dit tiens, mon enfant essaie d'avoir une communication avec moi qui est un peu anxiogène pour lui, je vais lui prêter de l'attention. Puis je rappelle que tous les conseils des parents ne sont pas forcément bons à prendre, ça peut être bon à prendre, mais le parent n'a pas une parole exemplaire parfois sur la sexualité, ça arrive. Et donc multiplier les interlocuteurs reste vraiment le meilleur moyen d'être bien informé sur la sexualité.
Moi, je redéfends les parents, parce que je dis au moins les parents. C'est vrai qu'on a toujours l'impression que les parents c'est des vieux ringards machin, mais les parents sont passés par là aussi.
C'est ce que je dis.
Donc ils sont peut-être maladroits, ils ont peut-être pas les bons mots, ils vont peut-être être, mais ils sont passés par là. Donc ils ont l'air bêtes. Mais voilà, ils savent.
Alors, il faut sortir de effectivement l'opposition bête et méchante enfant-parent, et forcément les parents sont des réacs et les enfants sont des super modernes, évolués. Faut sortir de ces schémas bidons. Effectivement, les parents sont passés par là. Et puis tout simplement, il faut sortir de l'idée que le parent est forcément dans l'injonction morale. Je ne sais quoi d'autre. Il faut se dire que le parent, à la base, s'il a établi une relation, c'est ce qu'on disait en début d'émission, une relation de confiance avec ses enfants, il n'y a pas de raison que l'étudiant ou l'étudiante vienne, se tourne vers l'un des deux parents pour pouvoir
échanger. Et le parent veut votre bien, ne l'oubliez pas.
Oui.
Normalement. Il y a des parents toxiques, hein. Faut pas quand même.
Ouais,
pas
mais, non, mais moi je parle que la majorité, la très grande
majorité
de vos parents.
Pour son enfant.
Ils veulent votre bien.
D'ailleurs, il y a un proverbe arabe, hein, qui dit que le parent ne veut que personne soit mieux que lui, si ce n'est son enfant, pour faire court dans le proverbe. Mais effectivement, à la base, le parent est là pour pouvoir accompagner son jeune ou sa jeune à pouvoir évoluer et à s'émanciper.
Par contre, ce que je dis aux parents, c'est qu'il faut être en congruence entre votre comportement et ce que vous dites. C'est-à-dire qu'à un moment donné...
Alors attendez Nadia, en congruence...
Il faut être en accord,
je vais pas vous faire une conférence sur la congruence. Hein. Et en congruence, ça veut dire...
Il faut être en accord entre ce que vous dites et ce que vous faites. C'est-à-dire que si...
Il faut incarner ce qu'on dit.
Exactement. C'est si vous parlez de tendresse, d'affection, de respect. Si par exemple le père, on va prendre l'exemple du père, parle du respect de la femme et qu'à côté il bat maman ou bien il l'insulte à longueur de journée, à un moment donné il y a quelque chose qui va pas. Donc si je parle de respect de la femme, par exemple si c'est le père à son fils, il faut que ce respect là déjà existe au sein de la famille et qu'il ressente justement cette attitude là du père envers sa mère.
Alors on a Amadou au 01 53 48 3000 qui patiente. Amadou, bienvenue.
Merci à Philippe de m'avoir passé la parole. Tu es le meilleur animateur, tu n'es pas le débatteur parce que tu respectes tes invités. Moi j'interviens Naza, ce qu'il vient de dire sur la sexualité. Effectivement la sexualité ce n'est qu'un besoin comme la nourriture, ne fait pas partie de l'amour. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la sexualité sans amour. Donc le père il doit conseiller sa fille, ce n'est pas le pouvoir, exercer le pouvoir, c'est lui montrer qu'elle a une intégrité en elle-même. Et si un homme lui propose pour la sexualité, parce qu'il faut aimer la personne pour lui-même, posséder, désirer, c'est la sexualité pour moi, c'est désirer, c'est posséder. Il ne fait pas partie de l'amour. C'est un discernement, je ne suis pas là à juger. Le parent a toujours aimé ses enfants, il le transmet lui ce qu'il a commis. Il peut dans le rêve, la sensibilité de l'enfant, il ne connaît pas la sensibilité de l'enfant. L'enfant veut dire que mon papa veut me dominer. Effectivement, il faut chercher le savoir partout, sans seulement les parents. Les parents, ils ont l'autorité, mais pas le pouvoir. Merci.
Ça, c'est une bonne question, Amadou. On en reviendra, mais moi, ce que je retiens quand même hein, de votre guide, c'est que en dépit de tout ce qu'on peut croire, on parlait de modernité, il n'y a pas d'âge où on soit à l'aise pour parler de sexualité.
En tant que parent,
en tant qu'humain, finalement, il n'y a jamais d'âge où c'est facile.
Bah parce que ça touche à l'intime. Alors comme tous les sujets qui touchent à l'intime, je pense qu'il n'y a pas que la sexualité qui est concernée, mais c'est vrai que c'est des sujets où on peut commencer à être à l'aise. Déjà, on peut être à l'aise d'en parler quand ça ne concerne pas la nôtre. Moi, je parle de sexualité toute la journée, je ne parle jamais de la mienne en particulier. Donc évidemment, je suis assez à l'aise.
Ah bah oui,
mais oui, bien évidemment. Mais parce que c'est dès que ça commence à toucher à mon intimité, à ma vie privée, que oui, ça devient gênant. Mais comme tout ce qui touche à ma vie privée et qui ne concerne pas, comme si je parlais de mes peurs et de mes faiblesses, c'est vrai que c'est évidemment des sujets très gênants.
Mais pourquoi c'est gênant? C'est gênant parce que justement, on est à découvert.
On est vulnérable.
Là, on est réellement nu. Et ce n'est pas juste une nudité physique. Ouais. C'est une nudité complète. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous parlez de votre sexualité ou de vos sentiments, bien, du coup, vous parlez de votre intériorité, ce qui n'est théoriquement pas visible à l'autre. Donc, à partir du moment où l'intériorité vient se confronter avec l'extériorité, ben là, oui, à moins d'avoir une pathologie, enfin une psychopathologie, un individu normalement constitué, effectivement, il se constitue depuis son enfance l'intimité, la pudeur, qui fait que il y a cette gêne. Maintenant, gêne, ça ne veut pas dire pudibonderie, ça ne veut pas dire pruderie. Il faut bien faire la différence.
Voilà, nous continuons de feuilleter ce matin avec Flore Chéri, le guide de survie sexuelle de l'étudiant aux éditions Tabou. Vous pouvez bien sûr, comme Amadou, réagir au standard au 01 53 48 3000, 01 53 48 3000.
Votre magazine santé tous les jours, midi 13h, sur Beurre FM. Midi 13h, à votre santé. À votre santé. Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, on parle du guide de survie sexuelle de l'étudiant aux éditions Tabou avec Flore Chéri. Flore, est-ce que l'étudiant vit dans un monde qui est tellement éloigné que le monde de ses parents? Parce que vous faites la carte du monde dans lequel l'étudiant vit, c'est vraiment très différent. Est-ce que les parents vivent dans un monde qui est très très éloigné de celui de leurs enfants aujourd'hui?
Non, mais je pense qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. En effet, le parent se fait énormément de soucis, en particulier sur la santé sexuelle de son enfant. Là où l'enfant veut s'épanouir... sexuellement, veut être assuré sur le fait qu'il est normal, veut s'assurer qu'il est possible et capable lui aussi d'avoir des relations sexuelles épanouissantes, là où le parent veut juste lui dire non mais attends, fais pas trop ci, fais pas trop ça. Donc ils ont deux intérêts un peu contradictoires et c'est pour ça qu'ils vivent, enfin ils ont pas les mêmes intérêts. Maintenant oui, ils vivent dans le même environnement globalement.
Sans parler de parents, puisqu'il il faut quand même évoquer la question. Il y a beaucoup de... Alors, je veux pas exagérer, mais en disant que ça concerne beaucoup plus les filles que les garçons, mais il y a beaucoup de parents qui veulent être garants de la virginité de leur fille et qui pensent que le fait qu'elle aille à la faculté, qu'elle prenne une chambre à la fac, voilà, c'est la porte ouverte à plein de choses, à plein de dangers qui peuvent se passer. Donc ça, c'est aussi un sujet dont il faut parler.
Oui, alors c'est un sujet dont il faut parler, qu'il faut déconstruire, parce que là, si je me mets dans le référentiel éthique musulman, il n'y a pas à être garant de la virginité de sa fille, puisque on le sait, on le répète X fois, si on se met dans le référentiel musulman, c'est une question qui concerne les filles et les garçons. Donc je vois pas pourquoi on serait plus garant de la chasteté de sa fille et moins de celle du garçon.
Les choses évoluent, mais vous savez très bien, Nadia, qu'aujourd'hui c'est quand même les filles qui sont plus fliquées que les garçons.
Oui, c'est une réalité, mais voilà, c'est ce que je dis, c'est quelque chose qu'il faut déconstruire.
Les garçons, ils ont la vie de patachon, ils font ce qu'ils veulent.
Malheureusement, et ça c'est quelque chose qu'il faut déconstruire, et quand on est en éthique musulmane, il faut la déconstruire à la lumière des textes scripturaires. Moi je voulais revenir sur autre chose. Vous parlez dans le chapitre Ils ont survécu, il y a deux choses moi qui m'ont interpellée et je pense qu'elles sont intéressantes à rappeler aux étudiants. C'est le consentement, parce que vous donnez, il y a des témoignages, par exemple l'exemple de cette jeune étudiante qui finalement donc avec son copain faisait croire qu'elle avait eu mille et une expériences, et au final lorsqu'ils se retrouvent ensemble dans leur intimité, ils découvrent qu'elle n'a jamais eu de relation sexuelle par ailleurs, et donc elle se retrouve, un peu bête face à cette situation là, et ça pose la question justement de, à travers ça, ça pose la question du consentement, parce que on a, et ça c'est très fréquent chez les jeunes, les jeunes pensent qu'ils sont très anarchistes, très hors normes, et en réalité pas du tout. Ils sont aussi bloqués, exactement formatés et bloqués par un système normatif qui se sont constitués eux-mêmes. Et se faire passer pour le mec expérimenté ou la nana expérimentée, ça on le retrouve assez souvent sur le terrain.
Oui, alors je sais pas en quoi ça vient vraiment avec la question de consentement, qui est peut-être une autre question à traiter, mais oui, le côté fanfaronnade sur la prouesse sexuelle, on a tellement, en fait les jeunes ont enfin c'est même pas qu'ils ont l'impression, c'est je pense qu'ils se jugent quand même beaucoup les uns avec les autres, et se construire une image de soi qui est fausse permet de se protéger en fait du regard extérieur. Mais là, c'était stupide parce que le témoignage qui m'a été fait était dit par quelqu'un de bienveillant et dit mais c'est bizarre qu'elle m'ait menti parce que moi je suis bienveillant, je l'aurais pas jugé si elle m'avait dit ça dès le départ. Par contre, qu'elle me mente et qu'elle se cache à elle-même, là, elle me paraît bizarre et là, j'ai plus du tout envie. Donc c'est un peu bizarre parce qu'à force de trop vouloir se protéger des autres, au final, on en vient à se couper des autres. Et
alors le lien avec le consentement, je le fais là en fait, c'est-à-dire que il y a certains jeunes justement pour rentrer dans ces normes qui sont tacites, en fait, eh bien,
on peut s'écouter.
Effectivement, ne s'écoute pas forcément. Et là, je me pose la question du réel consentement et de la prise de conscience de est-ce que j'ai vraiment envie de le faire, et comme ça, et de cette manière-là. C'est là où moi, je me pose la question.
Après, il y a deux choses. C'est que si j'ai envie de faire une pratique sexuelle pour soit faire plaisir à mon partenaire, mais j'en ai pas trop envie, soit faire comme les autres pour être normal, mais j'en ai pas trop envie, on reste quand même dans la sphère du consentement, c'est-à-dire je fais cette pratique sexuelle, la finalité n'est pas mon bien-être sexuel, c'est une autre finalité, mais on reste dans la sphère du consentement, j'ai quand même consenti à avoir cette relation sexuelle et ça m'a apporté, je sais pas, peut-être l'impression de rentrer dans une norme, ou ça m'a apporté la reconnaissance de mon petit copain, bon ça m'a apporté quelque chose, ok très bien. Maintenant, ce que je dis, ce que je prône, c'est que pour une logique d'épanouissement sexuel, c'est vrai qu'il vaut mieux répondre à la question « est-ce que j'ai envie de faire cette pratique sexuelle ou est-ce que je vais faire cette pratique sexuelle par « j'en ai envie ». Ça, c'est pour être bien sexuellement, évidemment, c'est la bonne réponse à avoir. Maintenant, on sait très bien qu'on ne vit pas dans un monde exempt du regard de l'autre. Il y a un partenaire aussi, mais nous aussi, ça nous arrive dans notre quotidien sexuel, de se dire « bon, j'ai moyennement envie de faire ce truc, lui, ça lui plaît à fond, bon, je vais quand même le faire parce que c'est sympa », et puis inversement. Donc, il y a une forme de générosité aussi sexuelle à avoir. Mais c'est vrai que plus vous répondez à la question « tiens, j'ai envie de faire ce truc, j'ai envie d'y aller, ça me plaît, je vais le faire parce que j'en ai envie, parce que j'ai ce désir sexuel », plus vous allez dans votre propre accomplissement sexuel personnel. Donc évidemment, maintenant on reste dans le consentement, même si c'est pour faire plaisir à l'autre ou pour entrer dans une norme, on reste quand même dans la sphère du consentement.
Vous parlez d'autre chose aussi, alors, que je découvre en tant que sexologue, c'est la paille intelligente.
Ah oui,
oui. Donc vous expliquez en fait qu'il y a trois lycéennes de Miami aux États-Unis qui ont développé en fait une paille intelligente qu'elles mettent dans leur verre et à ce moment-là en fait la paille, si il y a du GHB qui est la drogue, la fameuse drogue du violeur.
Il y avait d'autres drogues, hein, parce qu'il n'y a pas que le GHB.
Ouais, voilà, c'est une paille qui a la capacité de pouvoir
détecter du viol.
Et bien du coup, la paille change de couleur. Moi, je trouvais ça très intelligent comme concept. Donc, et que ce soit en plus trois lycéennes qui ont développé ça.
Parce que l'idée, c'est qu'en fait, on peut vous faire boire quelque chose, une drogue, et voilà.
C'était surtout vrai sur les campus, parce qu'elle est...
Alors ça, franchement, je veux dire que ça existe toujours.
Ça existe partout, mais en fait, il y avait des études qui avaient été faites sur les campus universitaires pour... On a moins cette culture, peut-être, de la drogue, même si on l'a aussi un peu, elle est surtout vraie sur les campus universitaires. C'était pour répondre, en tout cas, à cette problématique qu'elles avaient développé ça. C'était un projet étudiant. Maintenant, oui, ça existe aussi en France, mais sous des formes un peu différentes. Mm-hmm. Et il y a d'autres drogues que le GHB qui vont être utilisées aussi pour permettre un consentement un peu plus, un consentement chimique, on va dire, de la personne qui n'est pas un vrai consentement.
Alors, vous parlez aussi dans la rubrique « Ils ont survécu ». Alors, moi, je l'ai mis dans la catégorie cyberharcèlement, mais là, bon, c'est un cas, c'est pas un cas de cyberharcèlement, puisque c'est une jeune fille qui s'est exhibée, c'est ça, dans la bibliothèque universitaire de sa fac. Et les images ont été réutilisées et en fait postées sur la toile sans son autorisation. Bon, finalement, elle a rebondi sur l'événement et elle dit qu'elle l'assume complètement. En revanche, moi, je vous questionne, quid justement des étudiantes
on va parler du revenge porn, qui est une vraie question aussi à prendre en compte. Et il y a le site qui s'appelle le site qui est fait par l'État sur la sexualité pour les jeunes qui s'appelle S'exprime, voilà, s'exprime.fr, merci.
Je pensais qu'il y avait un autre site.
Non, s'exprime. Voilà, s'exprime.fr qui parle de revenge porn.
Et d'éducation à la sexualité aussi.
Et donc, évidemment, une des façons de s'en prémunir, c'est de ne pas faire ce genre de photos. Maintenant, une deuxième façon de s'en prémunir, c'est aussi de ne pas d'accorder peut-être moins d'importance à la honte que peut avoir son corps nu sur la toile. C'est se dire, ok, j'ai envoyé cette photo-là, mon corps est nu sur la toile, les gens se moquent de moi. Comment est-ce que moi, je vis le fait d'avoir mon corps nu sur la toile? Est-ce que c'est grave? C'est mon corps nu, on s'en fout. De ne pas rentrer dans un climat où cette honte peut avoir des conséquences dévastatrices au point de se suicider. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se suicider parce que c'est ton corps nu, c'est bon, c'est ton corps, il est sur la toile. Évidemment, faut pas je suis contre évidemment toutes les formes de revenge porn et ce site est vraiment bien fait pour justement dissuader les jeunes de pratiquer le revenge porn qui peut avoir des effets dévastateurs. Mais une des façons en fait aussi de s'en prémunir, c'est de désacraliser la sexualité, de pas se dire ok, ou son corps, en tout cas le corps nu, sa représentation sexuelle, de prendre un peu de distance par rapport à ça. Et la deuxième façon, c'est évidemment d'éviter de publier.
Alors là, je vais forcément réagir.
Bah oui, forcément, je sais.
En tant que sexologue. Alors non, il ne faut surtout pas désacraliser la sexualité. Je veux dire pourquoi. On l'a assez désacralisée. Alors, on sait que la révolution sexuelle a apporté une grande libération, et ça, on ne va pas s'en plaindre. on a détabouifié la sexualité. En revanche, on n'a rien apporté de plus, c'est-à-dire qu'on l'a vidé de son sens. Et le fait d'avoir désacralisé la sexualité, on a désacralisé le corps. Et en désacralisant le corps, mais ça en même temps, on fait pas partie de la même génération. Ça, je pense que avec l'âge, vous comprendrez, et je le dis en connaissance de cause, hein, c'est un discours que j'aime et c'est un discours aussi que Brigitte Lahaie a, hein, à arriver à un certain moment, quand vous allez cheminer dans votre sexualité, vous allez comprendre que c'est fondamental de donner du sens à votre sexualité. Le plaisir, oui, mais le plaisir pour s'élever comment et pourquoi. Alors, qu'on soit, je parle pas de religion,
ah oui,
je parle
non,
pas de, là on est dans la spiritualité, oui, donc quelque chose qui redonne une dimension à l'humain. On peut avoir une sexualité bestiale, c'est pas un souci, c'est pas parce qu'on a une animalité. En revanche, ce qui nous diffère justement, c'est que nous on met du sens, l'humain peut mettre du sens dans cette sexualité là, pardon. Et je pense qu'on a tout à gagner, même pour les jeunes, de leur permettre de redonner du sens. Et quand vous dites pour le revenge porn justement que finalement c'est le corps, il est tout nu et c'est pas grave, ok, d'accord, on peut prendre le problème sous cet angle là en revanche, moi je préfère le prendre sous l'angle de quid du respect justement du corps de l'autre, c'est-à-dire quel
du consentement là surtout,
ah mais enfin, complètement, clairement. Et du respect aussi, c'est-à-dire de quel droit je peux me permettre d'utiliser finalement l'image de l'autre et le corps de l'autre pour
il y a deux choses, il y a un système répressif à avoir sur la vengeance. Maintenant, quand la vengeance est faite, quand l'acte est fait, quand la moquerie est là, de toute façon, je suis pas du tout d'accord avec. On peut donner du sens à sa sexualité maintenant que ce soit une nécessité, une obligation.
Ah non, j'ai pas dit ça. Mais... Là, tout dépend comment est-ce qu'on veut vivre. C'est-à-dire qu'on peut
vous
donner du sens.
Vous comprendrez quand vous aurez 20 ans de plus.
On peut donner
Flore.
Du sens à la sexualité tout en étant
j'aime pas trop
plaisir.
Qu'on me ramène non plus à mon âge parce que je pense que j'ai quand même une étude de la sexualité et me discréditer sur la question de l'âge, c'est pas forcément, je trouve, le critère le plus pertinent. Et je peux avoir 27 ans et quand même une vision de la sexualité qui est celle qu'elle est. Et en tout cas, désacraliser la sexualité peut avoir des aspects positifs comme négatifs. Un des aspects positifs, c'est aussi que on est moins traumatisé par ce qui nous arrive dans notre sexualité. C'est du Virginie Despentes en fait que je vous cite tout simplement dans Baise-moi. On peut aussi tout à fait atténuer les effets d'un viol ou du traumatisme d'un viol, même si ça peut être très très violent et ça je le renie pas. Mais on peut l'atténuer quand on accorde moins d'importance, quand on se dit pas mon sexe est quelque chose de sacré, un temple sacré qui doit être protégé. Parce qu'il y a plein de gens qui le vivent comme quelque chose qui n'est pas forcément un temple sacré. Typiquement les travailleurs du sexe pour qui la sexualité est un outil de travail.
Alors attendez, je peux pas laisser dire ça, dans le sens où je comprends ce que vous voulez dire, mais je peux pas laisser dire ça dans le sens que on n'est pas dans une sacralité ni religieuse ni autre, c'est-à-dire tout simplement dans le respect du choix de l'autre. Donc dire qu'on peut atténuer un viol quand on sait que l'autre a atteint sacraliser le corps, c'est quand même un raccourci.
Les débats en fin d'émission, c'est frustrant. Le guide de survie sexuelle de l'étudiante, c'est aux éditions Tabou. Merci Fleur Chérie d'avoir été avec nous. Effectivement, le débat a commencé maintenant. Merci Nadia, à la semaine prochaine.
À votre santé, Philippe Robichon sur Beurre FM.